Donc 1 Samuel chapitre 5, juste lire un verset, on a lu le chapitre au complet, mais je veux juste que on regarde le verset 7 parce que c'est de ça que le titre du message est tiré. Ça dit simplement, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, c'est ce qu'on veut considérer ensemble ce matin, toi qui regardes au cœur. Il n'y a rien de caché devant toi et tu nous dis que ta parole, elle est plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle sonde les intentions et les pensées du cœur. Donc on vient à toi, Seigneur, sans rien cacher. Et on te remercie de ça parce que tu es le Dieu de vérité et le Dieu d'amour. Tu ne vas pas nous mentir, essayer de nous attraper dans quelque chose, parce que dans ton amour, tu veux nous révéler tel que nous sommes et te révéler toi tel que tu es, afin de faire ton œuvre. C'est ce qu'on prie que tu fasses, Seigneur, au milieu de nous. Que ce soit pour le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés ou que ce soit pour la sanctification, la croissance de tes enfants, de ton peuple ici réuni. Seigneur, que tout ça soit à ta gloire, seul, toi, notre Dieu, qui est digne de toute louange, toute adoration, que nous louons maintenant et célébrons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a un passage ici, vous savez, qui est assez connu, on l'a lu tantôt au complet, mais le verset qu'on vient de lire, je dirais que c'est un des plus connus, même dans l'Ancien Testament, hein, Dieu regarde au cœur, combien de temps qu'on a entendu ça. Mais, comme trop souvent, malheureusement, avec des messages qui parlent de récits de l'Ancien Testament, on en fait des fois un texte premièrement à nous-mêmes. « Ah, Dieu regarde à mon cœur, regarde à moi, puis là, Dieu regarde à ton cœur, puis tout ça. » Alors que comme dans toute la Bible rend témoignage de qui? De nous autres? De Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et je dirais que l'Ancien Testament, c'est comme un peu un livre d'images. Tu sais, comme les livres à colorier, là. C'est plein d'images de Christ. C'est Christ qui est dépeint dans toutes sortes de facettes, dans toute la Bible, mais spécialement l'Ancien Testament, parce que on sait que ça l'annonce, la venue de Christ qui devait venir. Et malheureusement, à cause de cette approche des Écritures, des fois, on manque l'intention originale de Dieu de nous révéler son Fils dans les Écritures. Donc, on en fait au sujet de nous-mêmes, alors que Dieu veut le faire au sujet de lui-même. Évidemment que ça va donner quelque chose pour nous, mais le sujet principal, c'est pas nous, c'est Dieu. Et je crois que c'est pertinent pour le texte qu'on va considérer ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a une belle image ici de Jésus-Christ qui est appelé à régner, mais dont le caractère humble est mis de l'avant. Puis, il est appelé à régner, mais il ne règne pas tout de suite. Puis, c'est pas tout du tout comme les gens auraient prévu. Est-ce que ça vous rappelle que Jésus, quand il est venu, hein, le roi légitime et tout ça, il a-tu régné en se débarrassant de Rome, boum, tout? Non. Donc, on a vraiment ici une image de Christ. Et il y a quelque chose qui est souligné en décrivant ici David, le type de Christ. Ça nous dit que l'Éternel est avec lui, au verset 18, à la toute fin du verset. Et qu'il jouit de la faveur de l'Éternel, ce qui fait de lui celui qui fait jouir de la faveur de l'Éternel, même à ses ennemis. Parce que lui, lorsqu'il joue de la musique comme ça, il apaise son ennemi. On ne le sait pas encore trop quand on est au chapitre 16, mais on se rend compte dans la suite des temps que Saül devient le pire ennemi de David. Et n'oublions pas non plus que ce chapitre 16, où est-ce qu'on voit un humble serviteur qui paie les brebis comme ça de son père, c'est notre introduction à celui qui, au chapitre 17, va tuer le géant. N'est-ce pas aussi Christ qui, tout humblement, vient, sans qu'il trop, avec tambour et trompette, avec la fanfare, celui qui a vaincu le géant de la mort, de l'ennemi de nos âmes, le péché. Et donc, on a une typologie qui est merveilleuse. Et j'aimerais vous dire que notre roi, Jésus, il s'est caractérisé lui-même comme étant doux et humble de cœur. Et je pense que c'est ce qu'on voit ici comme portrait de Christ dans le chapitre 16 de 1 Samuel. Aussi, Ésaïe a prophétisé à ce sujet-là. disant de Jésus, le serviteur de l'Éternel, dans Isaïe 53, 3, « Méprisé des hommes, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » N'est-ce pas que David est une image de ça ici, ses frères, « Oh oui, t'es pas grand-chose, t'es pas impressionnant, ici et ça. » Donc on a ici une belle typologie de Christ avec David. Et juste une petite note, par exemple, par rapport à David. David est un type de Christ dans notre texte, mais il n'est pas tout le long de sa vie. La Bible nous dit dans Actes 13 qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a toute qu'une tare, une tâche dans sa vie, l'épisode de Bathsheba et Uri. Et je crois que Dieu révèle cet épisode de la vie de David, où est-ce qu'il n'est pas un type de Christ, évidemment, pour nous rappeler que même chez ses meilleurs serviteurs, ceux qui sont décrits comme ayant un cœur selon Dieu, ceux qui sont le mieux disposés, comme il dit, hein, « Seigneur, je demande une chose que je désire ardemment, c'est d'être dans ta maison, dans ta présence. » Ben, même chez ces serviteurs-là, le péché est à la porte. Et la dépravité humaine est là, réelle, et elle peut frapper. Autrement dit, comme Jésus l'a dit à ses disciples la nuit où il fut livré, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ou dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. « Ainsi donc que celui qui croit être debout, ne prenne garde de tomber. Nul n'est suffisant en soi-même. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. » Et j'aime aussi ce que ça dit dans Galates. « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. » Pourquoi? Parce que on est tous sujets à la même faiblesse. Voilà pourquoi je crois que ce matin, il est important puis il est vital qu'alors qu'on considère ce passage d'Écriture, qu'on le considère dans l'esprit du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ou pour prendre l'équivalent du Nouveau Testament de cette même idée, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » « Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Donc, c'est avec cette honnêteté que j'aimerais qu'on approche ce texte, avec l'Éternel qui regarde au cœur. Et ici, on a un portrait du cœur de Christ même, à travers David, ici, dans l'Ancien Testament. Et ce cœur de Christ qu'on va voir, il le reproduit par son esprit dans ses enfants. Par la grâce salvatrice pour ceux qui deviennent ses enfants et la grâce transformatrice pour ceux qui le sont. Et donc, on va regarder simplement trois caractéristiques du cœur de Christ qu'il reproduit dans ses enfants. Au verset 13, on peut lire, ça nous dit au verset 13, « Samuel se rendit auprès de Saül et Saül... » la page a tourné à cause... Non, c'est moi qui n'ai pas tourné la page, excusez. Je viens dans le chapitre 15. Je l'ai bien eu, hein? J'avais fait exprès. Non, c'est pas vrai, j'étais vraiment mêlé. Mais verset 13, « Samuel prit la conque d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et alla à Rama. » Donc, la première caractéristique du cœur de Christ, un cœur rempli de l'esprit. Mais si vous voulez, l'idée contrôlée par l'esprit. Je vous donne une référence ici sur Christ dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Une prophétie messianique ici qui nous parle de la mission du Messie, de Jésus-Christ. Et c'est vraiment ça qu'on voit. L'Esprit de l'Éternel était sur Christ pour faire du bien, pour libérer, pour délivrer, pour guérir. C'est ce qu'on voit dans le verset que je viens de lire dans Ésaïe. Et c'est ça le trait de caractère principal du ministère de Jésus-Christ que Ésaïe nous prophétise. Jésus est venu, il n'a fait que du bien. Il a délivré, il a guéri. C'est ça que le corps de Christ étant rempli, contrôlé de l'Esprit, a fait lorsqu'il était sur la terre. Est-ce que l'Esprit met de l'avant ici, soit dans Samuel 13, ou ce que je viens de lire aussi dans Ésaïe 61? C'est la chose suivante. La dépendance au contrôle de l'Esprit, dépendre de l'Esprit, de son contrôle. OK? C'est ça qui est caractéristique d'un cœur humble. On va développer ça plus dans le prochain point. Mais lorsque l'Esprit contrôle quelqu'un, il faut que cette personne soit humble, il faut qu'elle soit disposée, il faut qu'elle soit dépouillée de toute sa volonté propre pour accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, si on se pose la question, à quoi ça ressemble? Un cœur comme ça, saisi de l'Esprit, comme David ou Jésus, loin de l'Éternel, un cœur comme ça, qui est rempli de l'Esprit, ça ressemble à quoi? Ben, Galates 2, 5, 22 nous donne la réponse. Hein? C'est le fruit de l'Esprit. Et pour ceux qui sont là le mercredi après-midi, le mercredi soir, vous pouvez être là le mercredi après-midi, mais d'habitude, l'étude, on commence à 19h. J'ai pas bien dormi cette nuit, ça paraît-tu? J'ai comme un cerveau qui fait du ping-pong, là, en tout cas. Jusqu'ici, tout va bien. Comme dirait Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Mais ceux qui sont là le mercredi soir, on fait une étude sur le fruit de l'Esprit, puis je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je trouve que ça sonde mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est révélateur entre ce que Dieu dit sur la réalité de ma vie versus ce que lui nous dit dans sa parole. Autrement dit, tu peux bien dire, « Ah, moi, je suis un chrétien spirituel et tout ça. » Mais quand tu regardes le fruit de l'Esprit, « Ouais, est-ce que tu as l'amour tel que défini dans la parole de Dieu, la joie, OK, ces choses-là? » On voit la réalité et c'est précisément ça que ça signifie être rempli, contrôlé du Saint-Esprit, c'est-à-dire de porter son fruit, le fruit de la vie de Christ, et de pouvoir aussi le reconnaître, se le faire montrer dans notre cœur même par le Saint-Esprit, la différence entre mon fruit de ma vie versus son fruit de sa vie. C'est ça, être contrôlé par le Saint-Esprit. Je vous donne une couple de références qui vont dans ce sens-là. Jésus a dit dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, il rend témoignage de Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Écoutez aussi 16, 13, toujours dans Jean. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Écoutez aussi Romains 8. Verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfant de Dieu. Donc, le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il scelle l'authenticité de notre appartenance à Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 21-22, « À celui qui nous a fermi, et celui, pardon, qui nous a fermi, avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts, les gages de l'Esprit. » Donc, le Saint-Esprit fait ça, il rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons sa vie. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que la réalité de la vie de Christ est dans ta vie? Tu peux le savoir par le fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Pourquoi? Parce que le cœur de Jésus-Christ, lui, il est débordant de cette vie. Puis quand que quelqu'un a Christ dans sa vie, c'est le cœur de Christ qui s'investit dans son enfant et qui reproduit cette grâce. Je vais vous donner un exemple. La Bible nous dit, Paul en parlant aux Thessaloniciens, il dit, « Je ne veux pas que vous soyez comme ceux qui souffrent sans espérance. » Vous savez, j'ai vu toutes sortes de gens souffrir, je ne dirais pas que j'ai vu probablement que des gens dans des pays plus durs ou des situations de vie qui ont vu plus de gens souffrir, mais j'ai vu quand même pas mal de gens souffrir dans ma vie. Et je vous dis qu'il y a une différence marquante, une différence énorme en quelqu'un qui souffre sans l'Esprit de Dieu versus l'Esprit de Dieu. Il y a toute qu'une différence. Puis même, je dirais, il y a une différence entre ceux qui sont remplis, contrôlés de l'Esprit dans les enfants de Dieu versus ceux qui ne le sont pas. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'il est le consolateur. Et quand il est dans la vie de quelqu'un, ça fait toute la différence. Ça change absolument tout face au péché, face à la souffrance, face à des relations, des cœurs brisés. Pourquoi? Parce que Dieu est personnel et quand il est dans la vie de quelqu'un, il va directement là où la personne est. C'est un rendez-vous avec le Dieu vivant. Et ça, mes amis, ça change tout. Il n'y a rien de pareil. Est-ce que le Consolateur, l'Esprit de vie, sa vie toute puissante t'a saisi au point où est-ce que cette vie détruit les liens et les forces spirituelles de l'amertume, du désespoir, de la convoitise, du mécon... C'est ça, être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu non seulement produit sa vie, mais surmonte, surpasse les puissances spirituelles néfastes qu'on peut avoir dans notre vie? Tout ça, c'est l'idée d'avoir une vie qui est remplie, contrôlée par le Saint-Esprit. Un des livres qu'on a, je ne sais pas si on l'a passé, je ne sais pas si on l'a encore, mais ça, c'est la puissance expulsante de la vie de Christ sur la mort. Ma femme n'est pas là, elle pourrait peut-être le dire. En tout cas, si jamais vous pouvez lire ce livre-là, c'est bon. Il est en anglais, par exemple, je ne sais pas si ça se fait en français, mais la puissance expulsante de la vie de Christ sur cette puissance de la mort qui est partout, hein? Et c'est ça, une vie remplie de l'Esprit. Mais il ne faut jamais oublier que, comme ici le cas avec David, que le cas de Christ aussi, une vie contrôlée, remplie de l'Esprit, ne réside que dans un cœur humble. Et ça, on a les Écritures pour, comme on dit en bon québécois, pour backer ça. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mais il fait grâce, il travaille, il fait ce que juste lui peut faire aux humbles. Ça nous amène au deuxième point. Deuxième caractéristique du cœur de Christ, non seulement c'est un cœur rempli, contrôlé par l'Esprit, mais c'est un cœur humble. Regardez verset 18. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 16. Verset 18. « L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » C'est significatif ici que le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures met de l'avant comme qualité première ici, devant le roi, le fait que David est musicien. Puis après, il parle qu'il est un guerrier, puis qu'il est beau. Puis il couronne tout ça en parlant qu'il est... Il jouit de la présence de l'Éternel. L'Éternel est avec lui. Et je crois qu'il y a quelque chose de qu'on voit aussi de Christ. Comment Christ s'est dépeint lui-même dans Matthieu 11, 29? Il est doux et humble de cœur. On voit avec ce côté musicien, jouer de la harpe, la douceur. Puis humble de cœur, l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais parce qu'il était humble. L'Éternel, sa grâce, était avec David. Et on voit encore là vraiment toute qu'une description, tout qu'un type de Christ dans le serviteur David. Et justement, pour revenir à Christ, un passage que j'aime tellement, Jean 5, je ne sais pas si vous avez lu Jean 5 dernièrement, mais Jésus qui parle, vous savez, Jean a beaucoup de discours de Christ, il parle de lui, sa relation avec le Père, puis toutes sortes de choses vraiment merveilleuses. Mais dans Jean 5, il y a deux versets qui sont vraiment significatifs. Dans Jean 5, 19, écoutez ce que Jésus dit. « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Ça ici, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas du langage poétique, c'est littéral. Je vais vous expliquer pourquoi. « Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Christ était humble et on le voit ça par sa dépendance totale au Père. Sa dépendance, d'abord, verset 19, sa dépendance à sa puissance. Il ne faisait rien de lui-même. Toute sa puissance, sa capacité lui venait du Père. Et ça, c'est ce qu'on... Rappelez-vous, hier, les hommes, on a parlé de la kenosis, c'est un mot qui vient, c'est grec. Je l'ai vu en français, que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, puis en anglais aussi, c'est un mot qui est aussi une translittération. Des fois, au lieu d'expliquer le dépouillement, de prendre un mot français, ils vont garder le mot grec. C'est quand que, dans Philippiens chapitre 2, verset 7, que ça nous dit que Christ s'est dépouillé lui-même. Le mot, c'est kenosis. Il s'est dépouillé lui-même. L'idée, c'est que c'est pas qu'il a arrêté d'être Dieu, c'est pas qu'il a arrêté qui a perdu sa divinité de quelque façon que ce soit, c'est qu'il a mis volontairement de côté certains attributs divins. Tout en demeurant Dieu, il a mis de côté, il s'est dépouillé. La kenosis, l'idée que Christ, dans son humanité, s'est placé dans une position de totale dépendance. Parce que quoi? Christ est Dieu, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait sur terre, là. Il avait la capacité de faire, mais volontairement, parce qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est mis dans cette position de dépendance. D'abord, comme on vient de le voir, à la puissance de Dieu, hein, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que ça soit ainsi. Il s'est dépouillé de cette capacité. Il faisait tout ce qu'il voyait faire au Père. Mais au verset 30, on apprend une autre chose. Jésus encore qui nous dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté que celui qui m'a envoyé. Non seulement il était complètement dépendant de la puissance de Dieu pour sa vie, mais il était totalement dépendant de la direction de Dieu, pour la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de volonté propre à lui. Jésus-Christ n'a jamais fait, si on peut dire ainsi, sa propre volonté à lui. Il faisait constamment la volonté de son Père, parfaitement et constamment. Pour ça qu'il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus en a le parfait accomplissement. C'est dans Deutéronome 8, et il a cité ça aussi au diable lorsqu'il le tentait dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Donc, on a ici une définition pratique, et je dirais christique, de l'humilité. Vous allez savoir si vous êtes humble, ça va un cœur humble ce matin. Selon ce qu'on vient d'expliquer à la lumière de Christ, l'humilité, c'est une totale dépendance à la puissance de Dieu et à sa direction, sa volonté. Vous allez savoir si vous êtes humble, est-ce que vous dépendez de Dieu pour la capacité, la force, la puissance? Est-ce que vous dépendez de lui pour la direction? Je vous donne deux passages là-dessus qui sont accomplis en Christ. Un, c'est dans Zacharie. Évidemment, c'est tout par rapport au temple et tout ça, mais Christ est celui qui est plus grand que le temple. Christ est celui qui accomplit cette prophétie-là. Ça dit dans Zacharie 4:6, il reprit et dit, « C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est comme ça que le temple a été rebâti, c'est comme ça que Christ a vécu toute sa vie. Puis dans le psaume 143, ça dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduite sur la voie droite. » Christ a vécu ça parfaitement et constamment. Dépendance à la puissance et à la direction de Dieu. Je pense que pour nous aider à comprendre ça ce matin, vous savez, Jésus a ouvert son sermon sur la montagne avec une expression que des fois est mal comprise. Heureux les, c'est quoi la première des béatitudes? Les pauvres en esprit. Et ça, ça ne veut pas dire pas intelligent. Ça veut dire justement dépouillé de toute estime de soi, de toute confiance en soi. Puis là, pas dans le sens mondain, là, il y a besoin de plus d'estime de soi. C'est reconnaître qu'on n'est rien sans Dieu. C'est reconnaître que seul Dieu est notre vie, notre espérance, qu'en dehors de lui, il n'y a rien de bon qui peut arriver avec nous autres. C'est ça, être pauvre en esprit, c'est d'être conscient de cet état. C'est un fait, mais notre orgueil nous empêche de le voir. Un pauvre en esprit, la description ici, c'est quelqu'un qui en est profondément conscient de ce qu'il est et de ce que Dieu est. Et c'est comme ça qu'il ouvre le sermon sur la montagne, ce qui n'est pas une mince chose. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de ce dépouillement kenosis dont Jésus lui-même est l'incarnation. Et je dirais, c'est l'entrée pour le salut, pour être sauvé. Reconnaître que, si vous avez été sauvé, vous avez reconnu que vous aviez absolument rien en vous-même pour vous sauver. Rien! Que seul Christ peut sauver. Qu'on a zéro, pas un iota, pas une trace de iota à à amener pour être sauvé. Tout est accompli. OK? Pour être sauvé, il faut être pauvre en esprit pour reconnaître notre état devant Dieu. Savez-vous quoi? De la même manière que ça dit, comme vous avez reçu Christ, marchez ainsi en lui. Ben, pour grandir en lui, pour avancer, ça prend cette disposition d'être pauvre en esprit. Et l'œuvre de grâce de Jésus-Christ, savez-vous quoi? Nous a déjà dépouillés de la puissance du péché. Je vous rappelle ce que Paul dit aux Romains. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, Christ a déjà accompli la délivrance. Et l'idée maintenant pour nous, on est appelé à vivre à la lumière de cela, en réponse à ce que Christ a fait. En réponse à l'œuvre parfaite du calvaire. C'est pour ça que ça dit, dans Romains 6 encore, mon verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour dire, regarde-toi de même, puis ensuite, qu'est-ce que ça va donner? Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant mort de vivant, comme étant de vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. » Vivre à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ. Ça, c'est avoir un cœur humble. C'est reconnaître qu'on n'a rien en nous-mêmes et que Christ a tout accompli et que ça, c'est absolument tout ce qu'on a besoin. C'est ça, être pauvre en esprit, c'est ça, la disposition de Christ face à son Père et c'est ce qu'il reproduit en nous, ses enfants. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à devenir son enfant, en reconnaissant qu'on n'a rien en nous-mêmes pour être sauvé, mais que c'est seulement par sa grâce, et nous, on le reçoit au moyen de la foi. Ça m'amène à la troisième caractéristique du cœur de Christ. Non seulement Christ, avec ici ce qu'on voit de David, il avait un cœur rempli de l'esprit, il avait un cœur humble, mais on voit aussi qu'il avait un cœur plein de grâce. Un cœur plein de grâce. Regardez la toute fin de ce qu'on a lu dans le chapitre 16. Au verset 21, ça dit « David arriva auprès de Saül, et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Je crois ici que dans ce point, David est vraiment puissamment un type de Christ dans sa relation avec son ennemi numéro un, Saül. Il n'a jamais fait de mal à Saül. Dès le début, il faisait du bien. Vous savez que l'histoire a continué. Il aurait même eu des occasions d'y faire du mal, de se venger de lui-même. Mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il est un type de Christ qui a un cœur plein de grâce. Qui, au contraire de vouloir faire du mal, recherchait le bien. Écoutez ce que ça nous dit dans 1 Pierre à ce sujet-là. Au sujet de Christ ici, là. Lui, ça c'est Christ, qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. N'est-ce pas que David est un type de Christ ici? Mais là, j'aimerais amener une vérité ici bien importante. L'amener un peu plus proche de chez nous. Est-ce que Saül méritait ce que David a fait envers lui?
Ben non.
Hey, pas pantoute, là. Saül, il avait vraiment aucun bon sens. Il a essayé de le tuer. Il a tiré sa lance une couple de fois. Puis là, ses compatriotes disent « Hey, t'as l'occasion de prendre la vie de ton ennemi. » Puis... Mais je pense que Dieu adresse notre nature humaine ici. Savez-vous quoi? Notre nature humaine, déjà donner, nous qui foncièrement étons égoïstes, mais en plus donner du bien à ceux qui ne le méritent pas. Vous parlez de quelque chose de contre-nature, de surnaturel, de traiter les gens selon la grâce et non selon la loi. Wow! C'est toute une image qu'on a là. C'est un exemple puissant d'un cœur rempli de grâce. Et il y a un élément révélateur dans nos relations, dans nos vies, qui nous montre la réalité de ça. Est-ce que vraiment j'ai un cœur plein de grâce? Je pense que l'endroit où est-ce qu'on a besoin le plus de considérer ce cœur plein de grâce, c'est dans nos relations les plus proches. Couple, famille, église, dans l'ordre. Parce que c'est là que nous recevons et nous donnons le plus de mal. N'est-ce pas? On a déjà parlé, c'est pas un secret. Mais voici, je veux amener la réflexion ce matin par rapport à un cœur plein de grâce. Écoutez bien, tout comme le cœur plein de grâce de Dieu est la motivation qui nous pousse à retourner à lui, même quand on a péché et repêché et entêté et continué, à cause que Dieu a un cœur plein de grâce, on sait qu'on peut aller à lui. N'est-ce pas? Parce que c'est la nature même de Dieu. Il est le Dieu de toute grâce. Il n'excuse jamais le péché, puis il ne prend pas le péché à la légère. Mais la Bible nous dit que Dieu est riche en bonté, en miséricorde. Il est le Dieu de toute grâce. Et ça, c'est notre sécurité. Si on est son enfant, qu'on a goûté à cette grâce, il n'y a rien de plus précieux. Rien. D'être accepté comme pécheur en Jésus-Christ. Wow! Maintenant, voici où est-ce que quelques orteils risquent d'être écrapoutis. Il faut venir avec des capes d'acier des fois à l'église, c'est pas une mauvaise idée. Hein? De la même manière que le cœur plein de grâce de Dieu est reproduit dans ses enfants, parce que ce cœur plein de grâce qui nous motive à aller le voir, lorsqu'il est reproduit dans ses enfants, ça va pousser ceux autour de nous, les plus proches de nous, à retourner nous voir même quand ça n'a pas viré comme ça devrait. Vous savez quoi? Ça arrive tout le temps. La question, c'est est-ce que j'ai cette disposition? C'est la base de la restauration de toutes les relations. Évidemment, ça commence avec Dieu. Mais tout ça, c'est un reflet de ce qui arrive au niveau... Tu sais, c'est vrai verticalement, mais c'est un reflet de ce qui arrive horizontalement. Donc, pour être très clair, ce matin, as-tu le pardon facile? Est-ce que ce que tu veux désespérément de la part de Dieu? Dieu, sois apaisé envers moi! J'ai encore péché, puis je viens à toi parce que je sais que tu es un Dieu qui pardonne puis qui est plein de grâce. Est-ce que tu es aussi rapide à l'offrir aux autres? Mes amis, ça, c'est le souffle de nos relations. C'est la vie même de nos relations. Sinon, c'est la mort qui s'installe. Je vous donne quelques versets en rafale à ce sujet-là. Écoutez, ça dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Écoutez ici 1 Pierre au chapitre 3. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce cœur plein de grâce de Dieu produit la grâce. À cause que Dieu est plein de grâce, on peut connaître cette grâce. Parce que, mes amis, ça ne sent pas de la présupposée bonté humaine. Il n'y a pas quelque chose, selon la Bible, c'est, tout ce qui est chez l'humain, c'est corrompu. C'est, vous lirez Romains 3, là, si vous voulez rafraîchir votre mémoire, là, mais c'est pas flatteur. Okay? La supposée bonté humaine, puis la tout ce qui est bon ne vient que de Dieu. Et je veux lire un passage là-dessus qui est important. Pourquoi? Parce que je veux rappeler que ce dont on parle, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose qui est en nous. C'est Dieu qui le donne. Écoutez bien ce que ça dit dans Jacques au chapitre 4. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Et il vous élèvera. Mes amis, on parle ici de ce qui va faire que la grâce va abonder dans notre vie. Le cœur plein de grâce de Dieu qui va abonder dans notre vie, c'est lorsqu'on s'humilie devant lui, qu'on reconnaît qu'on ne l'a pas, qu'on reconnaît que ce n'est pas en nous, que c'est notre plus grand besoin devant Dieu. Donc, devant ce Dieu qui sonde les cœurs, je veux rappeler que Dieu, c'est dans sa bonté qu'il monte ce qui n'est pas beau dans notre cœur. N'est-ce pas vrai que Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de toute chose? Mais souvent, ça, c'est bon pour quelqu'un d'autre. Hey, t'as-tu vu comment... Nous, il n'est pas si pire, notre cœur, dans le fond. Hein? On a cette tendance, on va embellir les choses. Ah, mon frère, ma soeur, ma femme, mes enfants, les autres, ils font dur. Mais Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme l'un d'eux. C'est pas pour rien, c'est dans les Écritures, mes amis. C'est un portrait de notre nature humaine pharisienne avec la justice propre qui est collée là. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on n'a aucune justice en nous-mêmes et que notre seule sécurité, c'est Christ, et que là où le péché abonde, la grâce surabonde, mes amis, que c'est un fait indéniable, que Dieu est le Dieu qui restaure et qui pardonne, mes amis, là on commence à avoir vraiment de l'espoir, on est dans la vérité et on est dans la grâce qui vraiment fait toute la différence. Ben, je veux simplement soulever cette question. Tu es assis ce matin à l'église, là. Est-ce que tu as peur de prier devant Dieu quelque chose comme David a dit ici? Sonde-moi, ô Dieu, connais tout mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que tu as peur de prier à Dieu de t'examiner pour savoir si tu es dans la foi, de t'éprouver toi-même pour reconnaître si Jésus est en toi, à moins que tu sois désapprouvé? Si tu as peur, c'est parce que tu n'as pas la bonne image, perception, compréhension du Dieu de la Bible. Et je vous dis pourquoi. Le Dieu de la Bible, écoutez ce qu'il dit aux pécheurs. Ça, il y a quelqu'un en prison qui ne revenait pas, il s'est converti avec ce verset-là. Écoutez, Ésaïe 55, versets 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça le Dieu de la Bible qui se révèle à nous. Si vous êtes son enfant, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce qu'on saisit qui notre Dieu est? Comment il s'est révélé à nous? Le cœur qui anime ce Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous dit encore dans Ésaïe, Ésaïe c'est plein de Jésus-Christ, j'aime donc Ésaïe. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, Christ lui-même, triomphante. Amen. Mon appel, c'est simplement ici ce matin. Deux choses. D'abord, sois honnête et courageux. Devant ce Dieu qui sonde les cœurs, tu n'as rien à cacher, de toute façon, tu ne peux pas rien cacher. Okay? Dieu sonde les cœurs, il voit tout. Donc ça, c'est le point de départ pour expérimenter la grâce. Sois transparent devant ce Dieu. Mais la deuxième chose, non seulement sois honnête et courageux, mais sois confiant. Sois confiant que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'était la confiance d'Abraham, on a vu ça hier. C'est la confiance d'Abraham face à l'impossible. Mais ça peut aussi être ta confiance face, premièrement, si tu es perdu, que Dieu nous dit qu'il sauve celui qui s'approche de lui par la foi, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un enfant de Dieu. Écoute bien ce verset, c'est tellement merveilleux. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption dans le monde par la convoitise. Fait que c'est simplement ça. Sois honnête et fais confiance dans ce que Dieu dit. Est-ce que tu crois que Dieu sauve ceux qui s'approchent de lui par la foi? Est-ce que tu crois que tu as tout pleinement en Christ et que tu as seulement à vivre à la lumière de ça? Que sa grâce, effectivement, elle est suffisante et que même nos afflictions, nos problèmes, les choses qu'on vit, qu'on n'aime pas, sont une bénédiction parce qu'elles nous amènent à Christ, elles nous amènent à dépendre de ce Dieu qui est bienveillant, qui est bon, qui nous amène à voir qui on est réellement et découvrir qui est Dieu réellement, qui est toujours suffisant, plein de grâce, de vérité, qu'on l'invoque. Les promesses que j'ai lues là, c'est pour chacun qu'on invoque ces promesses pour nous-mêmes. Merci Seigneur pour ta grâce. Ah Seigneur, je te remercie que tu es ce Dieu qui nous appelle à retourner à toi, qui a pitié de celui qui vient briser devant toi, que tu ne te lasses pas de pardonner, que tu es le Dieu de vérité, tu ne mens jamais. Tu ne flattes pas pour tendre un filet sous les pas. Tu dis la vérité afin de restaurer, de mettre les pieds de ceux qui s'enfoncent dans la boue, de les mettre sur le roc de Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin. S'il y en a qui s'enfoncent dans la boue de la tromperie, de la perdition, et que tu leur révèles leur état devant toi, je te prie, Seigneur, que tu places leurs pieds sur le roc de Jésus-Christ et qu'ils passent de la mort à la vie ce matin même. On prie, Seigneur, pour le salut de leur âme. Et pour nous, tes enfants ici, Seigneur, on te prie que tu nous révèles les richesses merveilleuses, incompréhensibles de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on vive à la lumière de ça. Qu'on arrête de regarder à nous-mêmes, de s'apitoyer, de regarder autour, de promener des regards inquiets, mais qu'on regarde à toi et à toi seul. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Merci que tu nous parles, tu t'adresses à nous personnellement. Tu es vrai, tu es toujours vrai, tu es toujours bon. Merci. On s'en remet en tes mains, Seigneur, que ton peuple ici réuni réponde à ton appel. On te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous voulez